matin, 8h moins quart pour le petit stop, puis 14h avec
salut.
Les demoiselles.
Salut Audrey. Bye bye. Salut.
Salut.
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. En espérant que tu aies passé une belle journée. Ça a été une belle journée ensoleillée avec des passages nuageux, des probabilités d'averses qui étaient bien présentes. Il y avait des risques d'orages aussi, donc je ne sais pas si dans ton secteur il y a eu des orages, mais ce soir, ben, il y aura des nuages qui seront bel et bien présents. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, pour l'instant, on ne nous parle pas de pluie de prévu pour ce qui est des prochaines heures et cette nuit, minimum de 12 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 26 et vendredi, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 21 degrés. Mon invité de ce soir, c'est Marois Risky, député libéral qui sera chef à l'Assemblée nationale du groupe d'opposition, du premier groupe d'opposition. Donc, on va parler avec elle de politique, bien entendu, mais on va aussi parler avec elle d'un documentaire qu'elle a eu idée de faire et qui sera disponible dans les prochaines heures, un documentaire sur les jeunes garçons. Donc, je vous présente Marois Risky à l'instant.
Marceau, le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marois
Risky, chef de l'opposition officielle au Parti libéral du Québec et député de Saint-Laurent, et maintenant aussi, je pense qu'on peut le dire, réalisatrice de documentaires de l'écart silencieux. Où on se pose la question sur le pourquoi les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, en plus de présenter des solutions. C'est un documentaire qui va sortir demain, si je ne me trompe pas, donc c'est tout frais. Marois Risky, salut!
Salut!
Et que je regarde votre horaire ces temps-ci, je ne changerai pas d'horaire avec vous. J'ai l'impression que je suis en vacances quand je regarde votre horaire.
Disons que je n'ai pas le temps de souffler, mais non, la réalisatrice, Yannick, c'est nul autre que Yann... Désolée, je vais finir par le dire. Flavie Payette-Renouf, qui est la fille de Sylvie Payette et aussi la petite fille de Lise Payette, qui est extraordinaire, Flavie. Alors moi, je ne suis que celle qui a eu l'idée de faire un documentaire, mais c'est grâce à Savoir Média et Flavie Payette-Renouf qu'on a réalisé ce magnifique documentaire.
On va parler effectivement de ce documentaire-là dans les prochaines minutes. Juste avant, j'imagine que vous êtes très alerte sur la commission Galant. J'imagine que vous prenez énormément de notes. Comment va être la rentrée parlementaire? Parce que c'est vous qui allez devoir faire face à François Legault. Ça va être exceptionnel comme rentrée parlementaire?
Absolument. Oui, je prends beaucoup de notes, mais je dois vous avouer que dans notre équipe, on a une personne qui a un post-doctorat de la commission Galant et du fiasco Saclic, c'est Monsef Deragy, qui a fait un travail incroyable, non seulement au Parlement, lorsqu'on siégeait, mais tout le long de l'été, il n'a jamais manqué quoi que ce soit, pas même une fraction de seconde, et sinon il va réécouter le soir. On a vraiment un député hors pair, et c'est sûr qu'on est prêts, nous, pour la rentrée parlementaire, s'il y a une rentrée le 16 septembre, parce que la rumeur est à l'effet qu'on nous serons prorogés. Donc, la rumeur voudrait que François Legault ne veut pas nous entendre à Québec au Parlement. Ouais. Mais nous, on est prêts.
Vous êtes une politicienne, vous êtes plus qu'une politicienne. Maintenant, vous êtes maman, vous avez de grandes études. Je regardais les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. C'est des grandes entreprises, des multinationales. Vous êtes lancée en politique avec possiblement une perte de salaire parce que vous êtes une passionnée puis vous voulez changer les choses. Est-ce que ça vous fait de la peine de voir que les gens commencent à perdre grandement confiance aux politiciens actuellement?
Oui, parce que je dis souvent, le vrai adversaire politique de tout le monde, c'est le cynisme. Ouais. C'est un tiers des Québécois qui ont le droit de vote qui n'iront pas aux urnes. Quand on pense là, que 66 % sont allés voter, mais il y a quand même 33 % qui sont restés à la maison. C'est énorme qu'un sur trois décide de ne pas y aller. Puis ça, c'est au niveau de l'État québécois pour le gouvernement du Québec. Mais au niveau municipal, c'est pire. Alors, dans les élections, ça tournait autour de 37 la moyenne. Ouais. C'est vraiment un désaveu complet de l'engagement citoyen. Mais aussi, qu'est-ce qui me fait de la peine? J'ai plusieurs rôles, mais je suis d'abord et avant tout avocate fiscaliste. On paye tellement d'impôts, tellement de taxes, ça peut se faire comme vous voulez, là, mais la ponction sur les salaires des travailleurs est énorme. Notre pression fiscale, Et après ça, quand je me mets à la place dans la peau du citoyen, quand il voit notre argent gaspillé comme l'argent de Monopoly, puis attendez, moi, je travaille. J'ai pas le choix de payer des impôts. Il y a une ponction directement, une déduction à la source sur la paye.
Exact.
Puis qui voit que c'est des centaines de millions de dollars. Je sais pas, Yannick, si vous avez vu en fin de semaine, il y avait une série d'articles dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal sur tous ces centaines de milliers de Québécois qui ont 2 à 3 emplois, pas pour se payer du luxe, mais simplement pour se maintenir à flot. Moi, je trouve ça vraiment triste qu'on en soit rendu là, puis de voir autant de monde qu'une amnésie ministérielle qui ne se rappelle pas de grand-chose nous faire comprendre, mais finalement, c'est pas grave, c'est juste des centaines de millions qu'on a gaspillés, mais c'est fiasco après fiasco. Donc ça, ça peut que faire entretenir non seulement le cynisme, mais j'ajouterais aussi une certaine colère. Les gens s'attendent à ce que nous, les politiciens, quand on a des mémos de 20 pages, qu'on soit capable de les lire. Quand j'entends que le chef de cabinet, M. Martin Koskinen, à la commission de Galland hier, il dit « Oui, mais vous savez, c'était noyé dans un document de 20 pages » et que j'entends aujourd'hui Yves Ouellet, l'ancien secrétaire général de François Legault, dire « Oui, mais c'est un document de 20 pages. » À 316 000 par année, je m'attends à ce que vous soyez capable de lire un document de 20 pages. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, M. Ouellet, pouvez-vous m'expliquer aujourd'hui pourquoi vous êtes le PDG de l'Autorité des marchés financiers à plus de 400 000 $ par année, alors que l'Autorité des marchés financiers, par définition, faut être capable de lire des états financiers?
Exactement. Puis la revue de presse du premier ministre, elle est déposée sur son bureau par Influence Communication. C'est Jean-François Dumas qui est derrière cette revue de presse-là. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux. Et tout le troisième étage est au courant de cette revue de presse-là. Donc, on parlait du dépassement de coûts dans le dossier Saclic. Et François Legault ne peut pas avoir manqué ça. Même au même titre que le tweet de Mitch Garber, où François Legault dit « Attends un peu, là, dépassement de coûts, c'est quoi? » Ouais, ça. S'il vous plaît, veuillez répondre à Mitch Gardner. Là, ça n'a pas de bon sens. Et après ça, il dit, je ne me suis pas informé là-dessus sur le dépassement de coûts. Je ne me suis même pas informé à savoir qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite sur le tweet. Les gens perdent beaucoup de, comment dirais-je, de patience actuellement envers le premier ministre et son gouvernement. Est-ce qu'il est toujours légitime de gouverner ce gouvernement-là? Parce qu'on regarde tout ce qui nous entoure actuellement. Je ne veux pas être trop tragique, là, parce que vous parliez d'impôts. Moi, là, je regarde les infrastructures, puis c'est pas les infrastructures dernier cri. Tout est vieux, ça craque de partout, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit nos écoles et tout ça. Heureusement, il y a eu des efforts qui se sont faits dans les dernières années, mais on n'a pas l'impression qu'on a un retour efficace sur notre gros investissement qu'on fait chaque année sur nos impôts, là.
Effectivement, on ne ressent pas tout l'argent qu'on envoie à Québec et à Ottawa ou même au municipal avec toutes les taxes qu'on a. Puis il y a toujours une nouvelle taxe dès qu'il y a un problème. On est très fort là-dessus. Là, je suis très sarcastique. Au niveau de François Legault, hier, mon chef, Pablo Rodriguez, l'a dit clairement. Ça dépend de ce qu'il va faire pour la suite des choses. On a quand même la vice-première ministre du Québec. Sous serment à la commission Galland, s'est fait prendre en délit de mensonge. Maître Vincent Rangier, qui est le procureur de la Commission, l'a très bien relevé. Il a dit il y a comme un décalage entre ce que vous nous dites maintenant et ce que vous nous avez dit en début d'interro. À savoir que Mme Guilbeault a plaidé à 5 reprises au minimum qu'elle ne l'a seulement appris, le dépassement de coûts dans le dossier Saclic, en février 2025, lors du dépôt du fameux rapport de la vérificatrice générale du Québec. Or, 1 heure et demie plus tard dans son témoignage, elle doit finalement admettre qu'elle savait depuis 2023 parce que le procureur dépose au dossier un courriel avec, évidemment, la séquence de dépassement de coûts ainsi que le morcellement des contrats, donc le fractionnement des contrats pour passer sous le radar. Et là, elle est obligée d'admettre. Puis même, écoutez, le juge Galland qui dit, parce qu'elle tournait en rond, elle tourne en rond pour ne pas répondre, dit, ça commence à être circulaire, votre affaire.
Ouais.
Madame Guilbeault, une fois que ça a été relevé, là, que sous serment, elle n'est pas capable de dire la vérité, il me semble que par elle-même, elle ne devrait pas attendre l'appel de François Legault, puis elle devrait remettre non seulement sa démission de ministre, de vice-première ministre, mais même de député. Moi, j'ai un code de déontologie. On est 125 députés avec un code de déontologie. La première affaire qu'on nous apprend, c'est de dire la vérité. Alors, s'il lui reste un petit peu de respect envers les Québécois, il me semble qu'elle devrait avoir déjà rédigé sa lettre de démission. Et François Legault, comment se fait-il qu'un premier ministre du Québec accepte que sa vice-première ministre ment sous serment et la garde encore en poste? Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'attendre son remaniement ministériel pour lui dire non, Je ne peux pas accepter qu'une élue ministre et a fortiori vice-première ministre, c'est un petit peu la co-chef de la CAQ, là. C'est quoi que ce soit, François Legault, c'est elle là, qui assume l'intérim, a menti sous serment. Voyons donc.
Elle a plaidé des problèmes de mémoire, de ce qu'on comprend, puis tout le monde peut en avoir, mais je ne connais pas Geneviève Guilbeault personnellement, mais si elle a été mise à la CAQ, c'est parce qu'elle a un pouvoir de communication qui est immense. Elle a une mémoire qui est pratiquement sans faille. Et là, elle arrive à la commission Galland et tout d'un coup, à 40 reprises, elle mentionne qu'elle s'en souvient plus. Ça, c'est pas la Geneviève Guilbeault qu'on connaît. Et effectivement, comme vous le dites, elle a dû s'ajuster à partir du moment où le courriel a été mis en preuve. Puis ça regardait pas bien pour elle. Est-ce qu'elle a menti? Un jour, on le saura peut-être, mais est-ce qu'elle avait des troubles de mémoire? Un jour, on le saura
peut-être. Non, elle a menti. Ça, je suis capable de l'affirmer sous serment, parce que je vais reprendre les termes de Maître Rangé.
Ouais.
Il y a un décalage en ce que vous nous avez dit en début de témoignage et maintenant. Un décalage, en d'autres mots, là, c'est que vous nous avez dit « Ah, on est rendu à B et voici la preuve qu'on vous met sous le nez. » Et dans le cas de Mme Guilbeault, plaider les troubles de mémoire, c'est un petit peu le fort de café pour une femme qui a eu un portrait d'elle dans l'actualité où est-ce qu'on vantait quoi? Sa mémoire phénoménale.
Exact.
Mais pas rien, hein?
Visiblement, tous ces gens-là ont une certaine préparation là, avant leur arrivée à cette commission Galland-là. Puis, malheureusement pour certains, il y en a qui n'ont pas réussi à faire passer la recette qu'ils voulaient faire passer. Et ces gens-là auront probablement à répondre à un moment donné. Mais les gens ont une perte de confiance épouvantable envers les politiciens. Ce qui fait en sorte que vous m'avez nommé quelqu'un que je respecte énormément. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pour un parti politique. Je prônerai jamais un parti politique. Je dirai jamais à mes auditeurs pour qui voter. Mais je peux vous dire, par exemple, que quand il y en a un que j'aime, je peux le mentionner, peu importe le parti. Monsef de Raji en est un. C'est un gars qui semble être extrêmement droit, extrêmement rigoureux. Puis j'ai bien hâte de voir jusqu'où il va pouvoir aller pour ce qui est de la prochaine session parlementaire. Mais c'est ça. On en est rendu là. Puis je me dis, ben vous, avec vos nouvelles fonctions de chef de l'opposition, vous allez avoir énormément de travail. Vous vous donnez combien de temps? C'est un an à peu près que vous allez être chef de l'opposition. Après ça, vous allez quitter?
Moi, je ne suis que chef parlementaire, donc Pablo Rodriguez est vraiment notre chef de l'opposition officielle, mais puisqu'il ne siège pas, c'est moi qui vais assumer le rôle de poser des questions à François Legault lors de la période de questions. Puis, vous savez, moi, j'ai annoncé que je quittais, mais je ne voulais pas devenir, vous savez, la députée, une fois qu'on sait qu'on s'en va, on lève un petit peu les feutres, on est moins présent dans nos dossiers, par respect pour les citoyens qui me payent, parce que moi, 100% de mon salaire est payé par les deniers publics, alors je considère que je leur dois de donner mon effort de guerre jusqu'à la fin et de rester qui je suis jusqu'à la fin. Et je ne voulais pas causer de partiel à 600 000 $ parce que ça coûte quand même ça, une partielle. Et je peux comprendre que certaines personnes font des choix, puis je ne vais pas critiquer tous ceux qui l'ont fait avant moi, s'en aller, puis avoir fait des partielles. Mais moi, en mon âme et conscience, quand je me suis présentée, j'étais enceinte, je savais que ça allait être difficile. Après ça, j'ai eu une deuxième grossesse qui a été difficile. J'en ai perdu un des deux de mes enfants que je portais. J'ai livré un deuxième bébé. Je m'en occupe, j'ai deux enfants en bas de 2 ans. Je sais maintenant que j'ai tiré mon élastique presque à sa pleine capacité, mais avant qu'il pète mon élastique, j'ai annoncé que ce sera mon dernier mandat, mais je veux que les gens sachent que je suis éternellement reconnaissante. Ça a été la plus belle aventure collective et je ne sais pas si un jour je pourrais revivre une telle intensité et de savoir que quand tu prends la parole, tu peux avoir un impact. Tu peux faire des modifications. J'ai été privilégiée, j'ai fait des projets de loi de l'opposition qui a été repris par le gouvernement et que même eux, même s'ils ne portent pas mon nom, je m'en fous. Au moins, eux l'ont dit publiquement, ben oui, Marois a été l'instigatrice de ce projet de loi. On est allé plus loin. Je veux partir avec le sentiment du devoir accompli. Alors, pour moi, ça sera ça de beau que j'ai fait dans ma vie et je vais le préserver comme souvenir. Je veux que ça soit pour moi quelque chose que je me dis, je quitte, mais je n'abandonne rien. J'ai pas fait le tour du jardin, je vais pas vous mentir. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire, que j'ai manqué de temps, j'ai pas été capable de faire. Mais j'espère un jour, une fois que j'aurai terminé mon mandat, je vais être capable de rester dans le service public différemment. Avant de parler de la politique, j'étais dans l'émission Enquête, dans plusieurs enquêtes financières, fiscales, des fraudes. J'ai adoré faire ça. Je le faisais pro bono. J'ai l'intention que si on me demande encore de le refaire, je vais le faire encore pro bono. J'y crois au journalisme d'investigation.
Mais j'ai l'impression, Marois Risky, qu'on va vous revoir en politique parce que vous parliez de votre travail et tout ça, mais les Québécois ne sont pas dupes, là. Ils ont vu en vous quelqu'un qui pourrait peut-être un jour aspirer au rôle de première ministre du Québec. Puis de voir que vous quittez pour les bonnes raisons et que vous quittez bien, j'ai l'impression que si on se rejase dans 5 ans ou dans peut-être 9 ans, il y aura peut-être une Marois Risky qui reviendra en politique une fois que les enfants seront peut-être un peu plus vieux, là.
Bien, je sais qu'on va finir par arriver à mon documentaire, mais moi, j'avais dit dans mon annonce de départ, pas avant 15 ans, j'étais très sérieuse. Les petits humains de demain, il faut en prendre tellement soin. Ouais. Et pour vrai, tout se passe au primaire et au secondaire. Je ne veux pas être cette mère ni absente ni à temps partiel. Je les ai tellement voulu puis espéré mes enfants. J'ai passé à travers avec mon conjoint, fécondation in vitro. Aujourd'hui, plus que jamais, et quand je prends la pleine mesure de c'est quoi la réalité des jeunes garçons, à quoi ils sont confrontés, je veux qu'ils sachent que j'ai fait le choix d'être auprès d'eux, mais j'aurai quand même une carrière. Je ne serai pas la maman au foyer, même si je respecte ma mère était une maman au foyer, puis elle faisait des ménages pour y arriver parce qu'on c'était une mère monoparentale avec 4 enfants. Alors, j'ai un grand respect aussi pour toutes ces mères qui sont au foyer, qui font le choix d'élever leurs enfants, ou des fois qui n'ont pas le choix de le faire, parce que j'ai aussi une amie qui est avocate qui a dû, pour son garçon, arrêter sa pratique pour s'en occuper. Sinon, elle me l'a dit, Mara, j'ai failli l'échapper, mon gars. Et je vous dis, moi, j'ai l'impression que ma génération était un petit peu chanceuse parce qu'on était la génération avant les réseaux sociaux. Mmh. Mais autres, je trouve qu'ils sont confrontés à tellement, mais tellement de défis que c'est une génération qui a besoin vraiment de au-delà de l'amour, je vous dirais, de l'encadrement, j'ose dire.
Avez-vous l'impression que l'Assemblée nationale s'est adaptée aux jeunes familles? Parce que je sais pertinemment que j'ai des gens autour de moi qui sont des hommes et des femmes d'affaires qui aimeraient aller faire un 4 ans de service. Parfois, on me dit, ben Yann, les salaires ne sont pas assez élevés pour ce qui est du provincial. Puis là, je sais qu'il y a des auditeurs qui vont dire, ben oui, tabarouette, les salaires sont très élevés. Mais il y a des salaires beaucoup plus élevés quand vous êtes au privé. Puis des fois, ils se disent, je suis encore dans la trentaine, je suis encore dans la quarantaine. C'est le temps de commencer à essayer de me faire un gros bas de laine. Puis après ça, j'irai faire mon service. Puis les autres qui disent, tout comme vous, ben moi, c'est mes enfants. Je veux avoir ma famille, je veux être près d'eux. L'Assemblée nationale, est-ce qu'ils vont s'adapter un jour, justement, aux réalités des hommes et des femmes d'aujourd'hui?
Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais c'est sûr que ma réalité, c'est que mon époux aussi est un député. On est 2 députés des comtés à Montréal. Donc, immanquablement, il y a 1 ou 2 parents absents de la maison. Là, c'est énorme. Si, par exemple, vous voulez faire une différence, la politique municipale, c'est de proximité. Donc, au moins, le soir, vous êtes chez vous. Sinon, quand au moins votre comté est à Québec, c'est plus facile, je veux dire, ainsi, au niveau de la gestion. Mais peut-être ne pas faire comme moi, épouser son collègue de travail. C'est un peu plus difficile. Petite recommandation, mais en même temps, l'amour, des fois, hein, ça bouge des tours.
Exact.
Mais moi, ça a été un coup de foudre avec Greg. Alors, on est ensemble. On va fêter la semaine prochaine notre 4e anniversaire de mariage. Mais il faut que les gens... Je ne veux pas leur dire que tout va être beau parce que moi, j'aurais aimé ça aussi qu'on me le dise. En toute franchise, c'est quoi la réalité? Très souvent, je suis arrivée au Parlement. Ça, que ce soit vrai, que vous soyez parent ou pas, là, vous allez arriver au Parlement, le soleil n'est pas levé et vous allez quitter, le soleil est déjà couché. Et vous n'aurez pas eu le temps de sortir dehors parce qu'on enchaîne. Vous allez avoir votre préparation, un point de presse, on s'en va à la période de questions. Après ça, on s'en va à un projet de loi. Il y a un autre projet de loi. Et on siège ainsi de suite avec des très courts moments de pause pour manger très rapidement. Alors, c'est sûr que c'est un rythme de vie qui est très soutenu. Maintenant, par rapport au salaire, ça va toujours dépendre de où vous partez, mais si vous y allez pour le salaire, c'est une très mauvaise idée, là. Vous ne gagnerez jamais au change, peu importe le métier que vous allez vouloir faire,
mais ça dépend.
Si c'est uniquement le salaire.
Je peux vous donner un exemple. Christian Dubé, qui est pour la Coalition Avenir Québec, qui est un gars qui était chez Cascade avant, il faisait plus $1 million par année. Il s'est lancé en politique dans le secteur de Lévis. Ça a fonctionné, mais son parti était pas au pouvoir. Il a décidé de sacrer son camp. Ça a occasionné une partielle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de $600 000. Il est allé à la Caisse de dépôt et de placement, encore $1 million et plus comme salaire. Puis après ça, il revient. Cet individu-là, c'est un bon gestionnaire. Est-ce qu'on dit. On a hâte de voir tout ce qu'il va réaliser en la santé, puis on le jugera sur son bilan par la suite. Mais c'est un gars qui a accepté une réduction de salaire. Ce que je parle, moi, c'est des hommes et des femmes dans votre catégorie d'âge, puis je veux pas vous vieillir, là, mais tu sais, il y en a dans la trentaine, il y en a dans la quarantaine qui, eux autres, c'est le temps, sont dans leurs grosses années pour faire des gros salaires, mais il y en a qui seraient peut-être appelés à aller faire un 4 ans de service si on leur dit, bien, savez-vous quoi, donnez-moi vos 10 dernières années, puis on va vous accoter sur le salaire pendant 4 ans. Il y en a certains qui sauteraient la clôture, puis on aurait probablement de meilleures femmes gestionnaires à la tête de nos partis, puis de meilleurs hommes gestionnaires à la tête de nos partis.
Peut-être qu'on pose la question vraiment à la mauvaise personne, parce que pour moi, la politique, c'est une question de cœur et de conviction. C'est pas une question de salaire. Puis oui, je comprends que pour certaines personnes, de quitter avec des salaires à 7 chiffres, puis moi, je le vois à l'inverse. Je dis, bien justement, vous avez fait de l'argent. Puis en plus, c'est à la Caisse de dépôt et placement, donc c'est de l'argent public, là.
Mais c'est parce qu'on
ne se le cachera pas, là.
On a beaucoup
c'est 1,2 million.
Oui, on a beaucoup de gens en fin de carrière qui sont multimillionnaires, qui n'ont plus besoin d'argent, qui s'en vont faire le service. Oui. Mais ces gens-là, j'ai pas l'impression qu'ils sont au goût du jour comme vous l'êtes au goût du jour. La réalité des gens d'aujourd'hui, la réalité de la classe moyenne. Tu sais, un Pierre Fitzgibbon, je suis pas sûr qu'il fréquente les mêmes restaurants que moi. Je suis pas sûr que les garderies qu'il y avait pour ses enfants, c'était la même chose.
Je pense que ni vous ni moi, on fait la chasse aux faisans, je vais dire ainsi. Mais rappelons-nous que, par exemple, Pauline Marois est travailleuse sociale. C'est ça, sa formation.
Ouais.
Et regardez tout ce qu'elle a fait pour la société. Et elle a pulvérisé le dernier plafond de verre pour nous, les femmes. Elle est devenue la seule femme première ministre du Québec.
Exact.
Mais au départ, c'est une travailleuse sociale qui a décidé qu'elle voulait faire des changements de société. Je pense aussi à une Lynn Beauchamp qui peut-être n'a jamais été dans la Caisse de dépôt et placement, mais n'empêche, elle avait quelque chose à faire.
Exact.
Je pense à Monique Jérôme-Forget qui vient du monde universitaire, mais aussi qui a été sous-ministre à Ottawa. Monique Jérôme-Forget, elle a marqué les esprits et elle, c'était une gestionnaire qui gardait la sacoche très serrée. Alors, il y a plein d'exemples concrets de personnes qui ne sont pas allées nécessairement pour le salaire, mais qui sont allées par conviction. Puis moi, j'ai travaillé par exemple avec Véronique Yvon, que je trouve qu'elle a été une politicienne hors pair. Hors pair, comme c'est rare d'en voir.
Oui.
Ce que nous, on appelle entre nous en politique, t'es une vraie fine. Les gens vont comprendre l'expression parce qu'il y a des gens qui sont fins quand la caméra est là, mais quand la caméra est plus là, ils sont pas très gentils.
Oui.
Mais Véronique Yvon, elle est toujours gentille.
Oui.
Et elle a travaillé avec mon beau-père, Jeff Kelly, sur l'aide médicale à mourir. Elle travaille dans l'harmonie. Ça, ça a eu un impact considérable, ce qu'elle a fait comme projet de loi, qu'elle a porté, qu'elle a expliqué, qu'elle est allée chercher un consensus social pour aider des gens ultra vulnérables. Mais ça touche une infime partie de la population dans les familles quand ça se passe. Ce qu'elle a fait comme changement de société a un impact non seulement au Québec, elle a fait carrément jurisprudence dans le reste du pays. Là. C'est ça qu'elle a fait.
Oui.
Mais est-ce qu'elle était multimillionnaire? La réponse, c'est non. Est-ce qu'elle est allée pour le salaire? La réponse aussi, c'est non. Moi, je rêve qu'on continue en fait d'avoir des gens de ce calibre qui ne regardent pas uniquement le salaire, mais qui se disent « Je veux faire de la politique parce que j'ai une cause. Je veux faire tel changement. Allez-y. » Si vous voulez juste être politicien, OK, ça en prend. J'en suis. Mais je crois que les gens, quand ils rentrent en politique, s'il y a quelque chose qui les habite, qui les anime, ils vont faire une différence. Mais si vous y allez parce que vous pensez pour le titre, ça se peut que vous restez vraiment sur votre fin en bout de piste.
All right, j'aime ça. Puis en passant, j'ai entendu beaucoup de bons mots pour Véronique Yvon. Quand on parlait de gens qu'on préfère dans certains partis, comme moi, j'ai pas de parti politique, puis je dirais jamais à mes auditeurs pour qui voter. Véronique Yvon était une exceptionnelle aussi, tout comme vous. Puis il y a beaucoup de comparables entre vous deux. Je sais pas si vous appréciez la différence, que vous ressembliez, là, mais les gens vous comparent les deux, puis effectivement, vous allez pas mal laisser un très bon leg dans votre passage politique. Là, on a un nouveau chef du côté du Parti libéral du Québec. C'est un gars qui provient du Parti libéral du Canada. Le problème du Parti libéral actuellement, c'est de se faire connaître en région. Pablo Rodriguez va devoir se promener à travers le Québec pour ce qui est de la prochaine année. Il va devoir faire ressentir aux régions que les régions sont importantes. On a l'impression, dans les dernières années, que c'était Montréal qui était très important pour le Parti libéral du Québec. Puis malheureusement, bien, les régions se sentaient peut-être un peu délaissées. Est-ce que vous avez un plan de match pour la prochaine année pour intéresser les Québécois, pour les ramener au Parti libéral du Québec?
Absolument. Pablo Rodriguez va se promener vraiment partout au Québec, mais aussi les députés. C'est revenir. Pas juste se promener pour se promener. Il y a déjà des demandes très claires qui ont été faites par différentes régions. On va déposer dans la plateforme quelque chose de concret, mais je dois vous avouer que ça ne sera pas du mur à mur. Parce que ce qui est bon pour l'Abitibi, ça ne sera pas nécessairement bon pour la Gaspésie, ainsi de suite. Mais aussi, il y a une réalité qui est bonne partout au Québec. Les gens s'attendent à ce que l'argent soit bien géré. Ils ne veulent plus de gaspillage. Et ça, je crois que ça va résonner un peu partout. Les gens nous font confiance. Donc, on aura... Pablo va présenter une équipe économique très forte pour montrer qu'on est capable de redresser les finances publiques tout en prenant soin des personnes les plus vulnérables, mais aussi de notre réseau, que ce soit le réseau de la santé, le réseau d'éducation. On doit en prendre soin. C'est excessivement important, mais on doit s'assurer que là, présentement, les valves sont très ouvertes du côté du gouvernement de Legault. Puis, je vous donne un exemple concret. Je ne peux pas croire que, alors que Northvolt, ils annoncent de tirer la plug, alors qu'on a 750 millions de dollars d'argent québécois dans cette, et je cite, aventure, que Christine Fréchette ose dire, aventure, et du même souffle, on nous dit qu'on ajoute 150 millions de dollars dans Nemaska, dans la filière batterie. Alors, Nemaska, on est rendu à 1 milliard de dollars d'argent québécois. Et pendant ce temps-là, le bureau du vérificateur général du Québec dit on fait une enquête sur la filière batterie. Le bureau du VG ne fait pas d'enquête s'il n'y a pas de fumée. Et généralement, quand il y a de la fumée, il risque d'avoir un feu. Je ne comprends pas que le gouvernement Legault continue à foncer tête baissée dans la filière batterie. J'arrive pas à concevoir ça. Alors, oui, pour reconquérir tous les Québécois, pas juste Montréal, l'économie va être vraiment notre fer de lance avec une équipe économique très forte. Puis on va s'assurer de redresser la barre et que les Québécois s'attendent à mieux. Et aussi simple aussi, on va leur dire la vérité. On va faire le... Oups, désolé, mon téléphone. Est-ce que vous me voyez toujours? Bien, on va aussi leur dire la vérité. Je pense que c'est important de leur dire parfois que ça, tel projet, on ne peut pas faire telle année, on va le faire telle année. Parce qu'en ce moment, la CAQ, quand on les écoute, ils veulent tout faire en même temps. Or, les attentes sont tellement énormes. Tantôt, on parlait de Christian Dubé. Lui, c'est un bon gestionnaire en principe, mais Maisonneuve, heureusement, il l'a échappé pas solidement, mais il allait faire un point de presse pour annoncer un hôpital de plus de 3 milliards de dollars pour qu'après ça, on se rende compte que ce n'était pas attaché qu'au Conseil du Trésor.
Non.
Alors que c'est un ancien président du Conseil du Trésor, il sait pertinemment qu'on ne peut pas faire d'annonce si ce n'est pas attaché qu'avec le concours du Conseil du Trésor. Ça, moi, ça me dépense une telle annonce. Ouais. Et mais contrairement à la CAQ, nous, on ne sera pas un gouvernement de communication uniquement.
Oui, parce que la CAQ, effectivement, gère pas le Québec, il gère les communications pour mieux paraître. Mais vous me parlez de cet hôpital-là, moi, ça m'avait flabbergasté. Je comprends là, les trucs techniques pour les demandes de financement et tout ça, mais je ne suis pas sûr que c'est ça vraiment qui intéresse les gens. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des hôpitaux qui sont corrects pour pouvoir être soignés. Moi, de savoir qu'on ne se posait plus la question... Pour ce qui est de la chute d'eau à l'intérieur de l'hôpital, on ne se posait plus la question pour savoir comment la colmater, mais comment la dévier à l'intérieur de l'hôpital pour être sûr, certain que ça le fasse le moins de dégâts possible, ou des pannes de courant qui faisaient en sorte qu'il y avait des chirurgiens qui finissaient leurs interventions avec leur lumière de cellulaire. Marois Risky, je veux dire, on est en 2025, on est au Québec, on n'est pas dans un pays du tiers-monde.
Non, écoutez, une chance que vous êtes bien assis sur votre chaise. À Chicoutimi, de lire qu'une chirurgienne explique sa technique avec sa tapette à mouche pour être certaine que ça ne rentre pas chez le patient pendant qu'elle opère.
Ça, c'est ce qui est concret pour les électeurs. C'est les techniques financières puis comment annoncer les choses, ça, je pense que c'est votre poutine interne puis c'est hyper important. Mais pour moi, en tant que payeur de taxes, de voir ça, je me dis, mais tabarouette, on est rendu où? À quel endroit? Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une stratégie qui est faite pour que Pablo Rodriguez puisse aller à certains endroits au Québec pour parler des régions.
Partout, pour dire
aux régions, vous êtes aussi importante que Québec, vous êtes aussi importante que Montréal. Au niveau de l'économie, Pablo Rodriguez vient du fédéral avec un gouvernement qui était très dépensier. Là, la CAQ a même été décotée parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer l'argent des Québécois. On a un Pablo Rodriguez qui devient chef du Parti libéral du Québec. Parti libéral du Québec qui a toujours été reconnu pour un parti qui était très près de l'argent des Québécois puis qui faisait attention. Comment on va faire
pour arrimer le gars qui vient d'un gouvernement qui était très dépensier avec un gars qui va arriver dans un parti politique où là, on fait vraiment attention à l'argent?
Bien, je ferais peut-être aussi une nuance, une différence entre investir et gaspiller. Je vais m'expliquer. Par exemple, une des dépenses importantes, moi j'appelle ça une dépense d'investissement, l'allocation canadienne pour enfants défiscalisée, ça c'est important, ça a sorti plus de 300 000 enfants de la pauvreté au Canada. Je vous donne un autre exemple concret, NerdVote. Combien d'argent qu'Ottawa a gaspillé?
Bien, pour l'instant, zéro.
Zéro. Pourquoi? Parce que eux, contrairement à François Legault, ils ont décidé de ne pas mettre de l'argent avant que le projet soit vraiment à maturité, assez pour dire parfois on va mettre de l'argent public.
Ouais, c'est la
François
différence,
Legault a décidé.
C'est la différence entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, c'est que le gouvernement du Canada attend la facture, tandis que le gouvernement du Québec envoie l'argent avant la facture, ce qui est un peu,
c'est un peu con comme
stratégie.
C'est pire que ça. C'est un coup de poker parce que François Legault le dit, c'est ma moyenne au bâton. Mais à date, sa moyenne au bâton, c'est de zéro. Que ce soit écoutez, là, Taïga, on a perdu de l'argent. Les espaces bleus, on a perdu de l'argent. Les maisons des aînés, on est passé à plus d'un million de dollars la porte. Là, c'est grave et c'est pratiquement une loterie si jamais un jour vous avez une place dans une maison des aînés.
Ouais.
Mais moi, je dois vous avouer que les baleines gonflables, ça, je ne l'avais pas vu venir. Ça, là.
Flying whales.
Oui. Et ça, savez-vous, c'est qui a sauvé la mise? C'est le gouvernement fédéral, parce qu'ils ont dit, vous êtes en train de mettre de l'argent dans une entreprise qui, on suspecte, est une société d'espionnage chinoise. Rien de moins.
Ouais.
Donc, merci peut-être là-dessus, Ottawa, on a sauvé 25 millions de dollars d'argent public.
Puis vous avez oublié Lyon Électrique aussi, qui était une belle aventure.
Oh non, j'y arrivais. Lyon Électrique, c'est toujours dans la filière batterie.
Ouais.
Mais des fois, ça, c'est l'exemple à des coûts de centaines de millions de dollars. Mais il y en a un plus récent. Des fois, les plus petits montants, ça, tu te dis, non, mais attendez, il y a des gens qui nous prennent pour une bande d'imbéciles. Radio-Canada, hier, publie qu'on vend un terrain à Montréal, une ancienne bâtisse, pour construire des logements sociaux. On l'a vendu à 6 millions. L'entrepreneur, trois mois plus tard, le vend Hydro-Québec. Là. Donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec, on lui vend pour 6 millions au mois de mai dernier. Là, il était revendu trois mois plus tard pour 15 millions de dollars à Hydro-Québec. C'est la même poche. Là, tu te dis, ben voyons donc, il n'y a pas de juste, pour moi, des gros scandales à 1 milliard, à 750 millions. Il y a aussi ces scandales-là à 10 millions de dollars. Tu te dis, ça n'a pas d'allure comment qu'on est mal géré. Et c'est une chose que j'ai retenue, moi, de la commission de Napron, entre autres choses, c'est que j'ai l'impression sincère qu'on est géré à coup de Napron. Ah oui, on est rendu une république de Napron.
Mais savez-vous, celle-là, je ne la savais pas, hein, qu'on a vendu un terrain. Le Québec a vendu un terrain à un entrepreneur et l'entrepreneur s'est reviré de bord. Il a vendu ça à un fort profit à Hydro-Québec. Ces gens-là ne se parlent pas.
Ben non, mais écoutez, tout ce qu'ils ont touché, là, ça s'est tellement effrité. Il y a des fois, tu te dis, ben, à un moment donné, ils vont peut-être comprendre que là, vous êtes à un moment où est-ce que les Québécois ont juste le goût de dire « Touchez plus à rien, faites votre mandat, faites l'essentiel. Arrêtez d'investir là, partout, à tout bord, tout côté. Réfléchissez, lisez. » Parce que moi, ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que j'ai des gens qui me disent sous serment qu'on a difficulté à lire 20 pages. Un document de 20 pages. Ouais. Parce que l'information a été noyée dans un document de 20 pages. Généralement, les informations financières, il y a un tableau, les gens prennent le temps de lire des informations financières. Mais écoutez, là-dessus, peu importe les investissements qu'ils ont faits, le gouvernement du Québec, ça s'est viré en gaspillage, alors qu'à Ottawa, je dois vous avouer que quand je compare avec NerdVault, un des deux s'en est mieux tiré, puis c'est Ottawa. Alors que pendant ce temps-là, nous, les Québécois, j'ai vraiment l'impression qu'on est devenus les dindons de la farce, parce qu'il faut se rappeler, c'était une jeune pousse suédoise que son propre gouvernement avait décidé de ne pas mettre une scène. Et nous, on a tout donné.
Y a-t-il des emplois, y a-t-il des responsables qui se sont fait sacrer dehors dans ces prises de décision-là? Où les Québécois ont perdu des centaines de millions de dollars. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas moi, on a dit, ben, tu sais quoi, il y a beaucoup d'incompétence dans ce qui s'est passé, puis ben, c'est de valeur, mais c'est toi qui est responsable de ça, tu vas quitter. Il n'y a pas de job qui se perd.
Moi, je me rappelle d'une conférence de presse en annonçant NerdVault, la filière batterie, d'un certain François Legault, premier ministre du Québec, qui a dit « ça va devenir ma Bay James ». J'ai beau lui dire « c'est devenu votre Waterloo, monsieur le premier ministre ».
Il y avait son fameux plan Nord aussi qu'il nous voulait mettre en place, qui est devenu le plan Mort. Après ça, c'est devenu le plan Saint-Laurent qui ne fonctionne pas très bien. OK.
Ben, sa main au bâton, finalement, n'est pas très forte.
Quand vous avez dit, là, les Québécois ont juste le goût de dire à François Legault, là, touchez plus à rien. C'est à peu près comme quand ma blonde me dit, OK, Yann, tu montres un meuble IKEA qui est assez simple à monter, puis ça fait 2 semaines que tu es dessus, touche plus à rien, je vais me contenter de ce meuble-là qui est monté tout de travers. Puis, on attendra quand mon père arrivera. Lui, il sait comment monter un meuble IKEA.
Mais c'est qu'écoutez, c'est qu'il nous enfonce des décisions que on se dit, la marge de crédit des Québécois en ce moment est vraiment pleine.
Ouais.
Alors, chaque annonce qu'ils font, puis quand on a des déficits, là, une année c'est 11 milliards, l'année suivante c'est pire à 13, après ça c'est 14 milliards, tu te dis un instant, là, avant on se donnait, là, puis je vais le dire, là, autant le gouvernement libéral que le gouvernement péquiste, on se donnait nous comme défi, comme nation québécoise, on se donnait comme défi d'arriver à l'équilibre budgétaire.
Oui.
Comme tout bon père et comme toute bonne mère de famille, quand tu as un budget, tu te dis, OK, ça va, des fois, il faut que je me serre la ceinture. Peut-être que telle affaire, c'est un luxe que je vais passer mon tour, mais on ne mettait pas tout ça sur la carte de crédit parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes ta marge de crédit. Et nous, finalement, avec tout ce qui est arrivé, la décote, là, prenons là, la pleine mesure de la décote. La dernière fois que c'est arrivé à décote, c'est en 93, j'avais 7 ans, puis on gagnait la Coupe cette année. Ça fait un bout.
Et quand on écoutait M. Girard, c'était pas si grave que ça. Quand on écoutait François Legault, c'était pas si grave que ça. Quand on écoute la commission Galland, on se rend compte qu'il y a personne d'imputable. C'est la faute à personne. Écoute, on a des troubles de mémoire. On peut pas lire tout ça, là. C'est pas facile. Il y a personne d'imputable. Pourquoi? Est-ce que ça serait pas le temps de penser en 2025, Marois Risky, que les hauts fonctionnaires, à un moment donné, quand il y a de hauts signes d'incompétence, ben plutôt que de les transférer ailleurs avec des salaires des fois qui sont bonifiés, ben juste leur dire, tu sais quoi, t'as eu une belle carrière chez nous, mais à partir d'aujourd'hui, ça peut plus fonctionner. Tu iras travailler pour une entreprise ailleurs. On peut pas le faire en 2025, ça, Madame Risky?
François Legault avait promis de réduire au minimum 5 000 fonctionnaires de l'État public. Ce n'est pas arrivé, au contraire.
C'était sa promesse électorale de 2018.
Oui, oui, mais attendez. Par la suite, il avait aussi dit, les pas bons, je vais les congédier. C'est pas arrivé. Et si je prends un pas de recul, moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique, sans rire, là. Vous me dites que Denis Marcellet, c'est lui tout seul qui a manœuvré pour faire du fractionnement de contrat, pour passer sous le radar le temps d'une élection pour, et je cite le rapport de la VG, des considérations médiatiques et politiques. Il était tellement pas bon que François Legault et sa gang ont décidé de le récompenser en devenant le PDG de l'Office de la protection du consommateur. Je répète, consommateur. Moi, je pense qu'on nous prend peut-être, nous, pour des imbéciles. Par la suite, on me dit que Yves Ouellet, secrétaire général, c'est quoi le secrétaire général? C'est les yeux et les oreilles du premier ministre que François Legault a lui-même choisi personnellement.
C'était le plus haut fonctionnaire de l'État là, à l'époque.
Exactement. Ouais. Le plus haut fonctionnaire de l'État choisi par François Legault pour être ses yeux et ses oreilles dans tout l'appareil gouvernemental. Apparemment, Yves Ouellet lui a jamais dit, ni à lui, ni à Martin Koskinen, et que même Yves Ouellet dit, mais moi, j'ai le document, il dit en fait, dans son témoignage, mot pour mot, ce que François Legault a dit hier, mais et Koskinen, mais c'est un document de 20 pages, ça a été noyé dans un document de 20 pages, et moi, je suis vraiment inquiète qu'un tel homme, s'il n'est pas capable de prendre l'essentiel d'un document de 20 pages, est rendu à la tête de l'Autorité des marchés financiers, nommé par qui encore? Par décret, François Legault.
Exactement. Savez-vous quoi, Madame Marois-Risky, bien entendu?
Oui, que vous m'avez parlé mais je prends comme un compliment, tantôt, par contre.
Ben, moi, je vous préfère, vous, que Madame Marois, là, en tout respect, là, mais ça, c'est juste parce que j'aurais l'impression de mieux m'entendre avec vous qu'avec Madame Marois. Donc, on est avec Marois-Risky. Après la pause, je veux qu'on jase de votre documentaire de l'écart silencieux. C'est un documentaire qui, à mes yeux, va être très important pour ce qui est des jeunes familles. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'intéresser à ça. Ça touche les enfants. On se pose la question à savoir pourquoi il y a une si grande différence de réussite entre les gars et les filles. Donc, on va s'amuser un petit peu après la pause. Merci, Mme Marois-Risky, d'être avec nous pour les prochaines minutes encore. C'est gentil.
Ça fait plaisir.
Marceau le soir.
Transport Jacques Auger vous invite à faire une promenade en camion au profit de Leucan. Le samedi 6 septembre de 9h à 16h, amenez toute la famille aux Galeries Chagnon de Lévis et faites un tour de camion de Transport Jacques Auger. Sur place, animation, jeux gonflables, maquillage pour enfants, exposition et kiosque des policiers et pompiers de la ville de Lévis, ambulance, haltebouffe et plusieurs autres surprises. Embarquez dans l'aventure! On vous attend le samedi 6 septembre en collaboration avec Boulevard 102.1.
La routine est déjà bien entamée et le temps file à la vitesse de l'éclair. Votre solution familiale par excellence, c'est Bouffe et Compagnie. Des repas de qualité, frais et renouvelés chaque semaine. Bouffetcompagnie.com.
Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP s'empare de la rue Saint-Joseph-Est. Spectacle gratuit, scène éphémère, bouffe de rue, bar, galerie d'art et plus encore. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
Les 27 et 28 septembre prochains, participez aux portes ouvertes du Collège Saint-Charles-Garnier. Vous y découvrirez nos 12 profils d'études et notre nouveau pavillon sportif. Culturellement, athlétiquement, scientifiquement, le Collège Saint-Charles-Garnier, oui, absolument. Détails au collègegarnier.com.
Hey, je sais pas toi, mais ça me tente tellement pas de faire la cuisine à soir.
Jusqu'au 3 septembre chez BMR, les meubles lavabo, lavabo, douche et bain et robinet sont jusqu'à 25% de rabais. Magnifique. BMR. Pour les vrais, des conditions s'appliquent.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviro-Confort grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque reconnue. Thermopompes, climatiseurs murales ou centrales, accumulateurs de chaleur et géothermie. Plusieurs produits disponibles selon vos besoins. Enviro-Confort, le choix du consommateur en chauffage et climatisation.
Fou de la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas prêts à manger, copieux, frais et savoureux. Offrez-vous des plats délicieux adaptés à vos envies, prêts en seulement 3 minutes. Un nouveau menu succulent chaque semaine avec la possibilité de personnaliser vos repas. Préparez et livrez dans des boîtes isothermiques garantissant des plats au frais jusqu'au moment de la livraison.
Visitez foubouffe.com pour tous les détails. Livraison partout au Québec.
Le complexe de l'Hôtel Maurice, c'est l'endroit idéal pour vos rencontres corporatives, réunions de groupe, parties de fête et rassemblements d'affaires. Profitez d'espaces privés et d'hébergements directement sur place, le tout en plein cœur de la ville de Québec. Informations et réservations sur hôtelmaurice.ca.
Saviez-vous que Scoop Vision, c'est la place pour vos lunettes? Ils ont de grandes marques et un service A1, mais au prix du web. Rendez-vous au Scoop Vision près de chez vous pour être bien servi et ressortir avec une paire de lunettes stylées. Détails et promos au Scoop Vision.ca.
Le Port de Québec vous amène en coulisses. Le 6 septembre, découvrez les métiers du fleuve, participez au rallye et gagnez des prix inoubliables comme une visite d'un navire de croisière. Une fête gratuite et ludique. Ne manquez pas cette fête maritime familiale à l'Oasis du Port de Québec.
Depuis plus de 30 ans, Je reçois traiteur nourrit le Québec avec passion et engagement. Avec la campagne Je redonne, chaque boîte à lunch vendue aide à nourrir des personnes dans le besoin. Un geste simple, une grande différence. Pour en savoir plus, visitez jereçois.ca.
Chérie, as-tu branché la voiture?
Oui.
Ah, puis as-tu appelé les assurances?
Oui.
As-tu pensé à combiner l'assurance auto et celle pour la maison?
Oui, oui.
Puis, est-ce qu'ils t'ont donné un rabais?
25 % de rabais et 50 $ CA.
Économisez en combinant vos assurances auto et habitation CA Québec. Obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur votre prime et recevez 50 $ CAA en remise. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caaquebec.com/assurance-auto pour une soumission.
CRCD, ça signifie Capital Régional et Coopératif des Jardins. C'est un fonds qui enrichit nos régions. Donc, vous aidez des PME près de chez vous, comme une manufacture au Saguenay, une épicerie en Montérégie ou même une résidence pour aînés en Estrie. Votre argent fait grandir votre coin de pays. Investissez jusqu'à 5 000 et profitez d'un crédit d'impôt provincial de 25 %. Rendez-vous à desjardins.com/CRCD. Consultez le prospectus avant d'investir.
Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps.
Cette année, t'en as plus pour ton argent.
Une journée supplémentaire, plus de spectacles et une nouvelle scène. Galantis,
Charlotte Cardin,
Charlie Puth,
Alex Warren
et une cinquantaine d'autres artistes seront là pour faire lever le party. Achète ta passe maintenant. Festival Phono, présenté par Beneva en collaboration avec RBC.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
On passe la soirée en compagnie de Marois Risky, chef de l'opposition officielle au Parti libéral du Québec et députée de Saint-Laurent. Quand on dit chef de l'opposition officielle, c'est elle qui va représenter le chef à l'Assemblée nationale, puisque le chef va attendre 2026 pour être élu. Vous êtes députée de Saint-Laurent et vous avez fait un documentaire avec l'aide d'une réalisatrice sur l'écart silencieux. Parlez-moi de ce documentaire-là qui est très important à mes yeux.
Bien, avec Flavie Payette-Renouf, la réalisatrice et Savoir Média, on a décidé d'aller un peu plus loin dans cette quête de réponse, à savoir pourquoi que ça fait maintenant des décennies au Québec que les garçons réussissent vraiment moins bien que les filles au secondaire, mais qu'après ça, ça se traduit au cégep et à l'université. Pour prendre un pas de recul, je donnais des conférences à l'université comme politicienne et en donnais, Yannick, dans ma classe, je regarde, puis ça m'a comme frappé. Comme un 2x4 en plein visage, j'ai fait « Où sont les gars? » Il n'y en avait presque pas. Et là, je me suis dit « Est-ce que c'est une perception? » Alors, j'ai fait une demande d'accès à l'information auprès de toutes les universités pour savoir quel était l'état de situation programme par programme sur les 20 dernières années pour me rendre compte que c'est une tendance lourde. Je vais donner quelques chiffres. En commerce, administration, c'est 60 % filles, 40 % gars. En droit, 70 % filles, 30 % gars. Dans le domaine de la santé, 80 % filles, 20 % de gars uniquement. Et là, je vais être une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on recule, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gars qui graduent du cégep et par conséquent, plus de filles qui vont déposer des demandes d'admission à l'université. Et que ça fait des années qu'il y a quand même bonhomme allant 10 points d'écart de réussite chez les garçons dès le secondaire. Et que trois décrocheurs sur quatre sont des gars. Je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai parlé avec plusieurs chercheurs. La plupart m'ont dit, Marois, nous, ça fait des années qu'on écrit sur le sujet. Ça fait des années qu'on écrit des livres, des mémoires, des thèses de recherche. Personne ne nous écoute. C'est comme un sujet tabou. Alors, vous dites, là, on va en parler, puis ce ne sera plus tabou, parce que je ne peux pas acheter l'argument qu'on m'a déjà servi d'ailleurs. Oui, mais Marois, un jeune qui décroche, il va peut-être aller dans la construction, il va faire 100 000 $ sinon plus. Là n'est pas la question. C'est de savoir est-ce que oui ou non, on veut s'assurer que nos gars ont les mêmes chances que les filles de réussir et surtout de s'accomplir et d'oser choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie. Est-ce qu'ils veulent être journaliste, est-ce qu'ils veulent être avocat ou est-ce qu'ils veulent aller dans la construction? Et c'est bien correct de faire des DEP si c'était notre choix.
Est-ce que vous avez trouvé des solutions, justement, pour combler ce déficit-là qu'on voit à l'université ou qu'on voit au cégep?
Mais on se rend compte qu'il y a une année qui est très charnière dans le développement des enfants à l'école primaire, c'est la quatrième année. Et lorsqu'on est allé voir ce que l'Ontario fait de beaucoup mieux que nous, parce que leur taux de réussite nous dépasse, honnêtement, là, ça nous fait rougir. Et l'écart entre les gars et les filles est tellement petit, c'est rien. Eux s'assurent que les gars, autant que les filles, la lecture soit au rendez-vous avec vraiment des heures obligatoires à chaque jour, à chaque semaine. On doit lire. Parce qu'une fois qu'un jeune est capable de bien lire, il va être bon en mathématiques, il va être bon en histoire parce qu'il aura bien compris la question qu'on lui pose lorsqu'il va lire son examen ou son devoir. Mais aussi, il y a une intervention très précoce. Donc, quand on voit qu'un jeune a des difficultés ou qu'il accuse un retard, on n'attend pas. On agit immédiatement, non seulement en classe, mais aussi on va retirer l'élève de sa classe pour avoir vraiment le temps consacré avec un professionnel de soutien, par exemple aussi avec une orthophoniste, un orthopédagogue, mais on va se concentrer sur les difficultés.
Madame Risky, est-ce qu'on s'est perdu? Je pense qu'on s'est perdu, donc on va reprendre le contact avec Marois Risky dans les prochaines secondes. Donc, on est avec Marois Risky, on a repris contact parce que nous, on est sur Zoom ce soir. Donc, on était rendu au moment où les enfants, les jeunes garçons, doivent bien lire, puis pour bien comprendre les directives, pour bien comprendre toutes les notions. Et quand ça ne fonctionne pas, il faut retirer l'enfant de la classe pour être avec lui, puis lui apporter une meilleure aide.
En Ontario, ils font les deux. Donc, ils vont aider l'enfant non seulement en classe, mais vont aussi s'assurer d'avoir du temps de qualité, du 1-1, pour vraiment que dès que la quatrième année primaire est terminée, on a été capable de remédier à l'écart d'apprentissage. Et souvent, lorsque, à partir de la quatrième année, l'enfant est bon à lecture, ses chances de réussite là, sont exponentielles. On l'a, permettez-moi l'expression, on l'a sauvé. À contrario, si on n'a pas remédié en quatrième année primaire à ces difficultés, là, par contre, il est à risque de décrochage assez tôt. Et un jeune ne décroche pas quand il quitte l'école. Le jeune décroche en silence dans sa classe. Quand tranquillement, il commence à devenir passif, à ne plus s'intéresser à ce qui se passe, là, c'est un décrochage qui est très silencieux, mais qui est déjà présent. Alors, raccrocher un jeune, c'est très difficile, mais c'est pour ça qu'il faut s'assurer dès le départ qu'il n'est pas décroché, ni physiquement, ni mentalement. Puis d'autres choses qui se font, ici au Québec, Next Lecture, avec les jeunes hockeyeurs de l'Océanique, qui, eux, ont décidé une initiative locale sous l'impulsion des Gédoyers de vraiment parrainer une école primaire. L'exercice est tellement simple, mais tellement beau. 15 minutes de lecture par jour, mais vous avez votre propre coach qui est un joueur de hockey de l'Océanique. Donc, on a un athlète qui est au fond un idole d'un jeune de 10-12 ans qui lui envoie des vidéos pour dire « Hey, moi, je suis en direction de mon match à Moncton, je suis dans l'autobus, je profite de ce moment pour faire mon 15 minutes de lecture. » Mais savez-vous quoi? D'avoir une idole de jeunesse qui nous parle directement à travers une vidéo, qui nous encourage avec des astuces de lecture pour dire au fond, là, n'importe quel bon moment, prends-le ton livre, fais-le ton 15 minutes par jour. Ça va inculquer aussi des saines habitudes de lecture aux enfants. Mais aussi, ça leur envoie le message suivant. Tu peux être un athlète et lire. Ça ne fait pas de toi un nerd de bibliothèque. Exact. Donc, en d'autres mots, ça devient cool. Et ça ramène à quoi? À des modèles positifs pour nos jeunes.
Ouais. Est-ce que dans le documentaire, on parle de sport, des jeunes garçons qui ont besoin de bouger à l'école? Est-ce qu'on touche, le TDAH?
La Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Bon, je vais vous le dire, il n'y a à peu près rien que Laurent Duvernay-Tardif ne fait pas. Alors, il y a aussi sa fondation qu'on est allé voir sur le terrain.
Vous n'avez pas idée à quel point je l'ai, lui. Il était bon au football, c'est un médecin, il fait des bols en bois, il nous fait paraître mal auprès de nos blancs.
Il fait du pain, on l'a tout... Écoutez, à côté de lui, là, on est vraiment des gens très, très, très ordinaires.
Exact,
c'est bien correct. Mais la Fondation Laurent Duvernay-Tardif font deux choses. On est allé visiter dans une école à Montréal-Nord. Il y a, oui, du sport, mais aussi des arts pour que les jeunes puissent expérimenter autre chose et pas être juste en mode d'apprentissage dans une classe. Et sincèrement, là, c'était beau de voir que quand on arrive à cette période additionnelle en fin de journée, je vous dis, là, il a fallu qu'ils mettent un plafond aux inscriptions tellement que tout le monde voulait rester à l'école après les heures de cours pour continuer à apprendre, mais sous une autre forme, qui est soit en sport, soit en art. Et ça, parce qu'il faut savoir que la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif, Florence d'Albivio, c'est l'art, sa passion. Donc, au fond, un jeune, une fois qu'il a des beaux modèles, ça se peut très bien qu'il va être capable par lui-même après ça de se dire « Hey, j'ai vraiment aimé telle affaire, puis c'est correct, j'ai essayé différentes choses, il faut les exposer. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, je pense 2 ans ou 3, il y a eu une polémique à savoir si oui ou non on devait faire une liste obligatoire de lecture à l'école. Le politique devrait décider qu'est-ce que nos jeunes vont lire.
Ouais.
Moi, ce que j'ai retenu de ce documentaire, il n'y a pas de mauvaise lecture, il n'y a que l'absence de lecture qui est mauvaise. Un jeune peut lire Planète Foot, Planète Hockey, en autant qu'il lise quelque chose. Les bandes dessinées, savez-vous quoi? S'il aime ça, laissez-le lire. C'est quand même des mots qu'il apprend, mais surtout, c'est qu'il va cultiver la lecture chez lui. Autre chose, nous les parents, on a aussi notre devoir d'éducation. Prenez le temps de lire devant vos enfants. Moi, quand j'étais jeune, mon père avait bien des défauts, mais il lisait sa presse devant nous. Donc, au moins, il l'ouvrait, puis on le regardait, puis à côté, moi, je disais autre chose. Je disais mes archis à l'époque. Mais peu importe, l'important, c'est qu'on commence tôt. Mais ça, c'est le concours de tout le monde. Pas juste l'école, je le dis souvent, l'éducation, c'est à la maison. L'instruction publique, ça, c'est l'État. Mais nous tous, comme société, on doit s'assurer que nos jeunes trouvent leur place. Nos jeunes garçons, on ne peut pas les abandonner. Et... c'est Bernard, je crois, de mémoire, qui dit « on les a abandonnés ». Parce que, sincèrement, il y a des programmes qui existent pour attirer les filles dans des programmes très masculins, traditionnellement masculins. On n'a jamais créé le pendant de chapeau les filles. On n'a jamais fait de chapeau les gars pour les attirer en orthophonie, en psychologie, en enseignement, dans les programmes de soins infirmiers. Mm-hmm. Pourquoi? On est capable de faire les deux. On est capable de s'occuper des filles tout en s'occupant des gars.
Puis est-ce qu'on aborde le TDAH?
On n'aborde pas le TDAH directement, mais on a parlé, par exemple, avec une chercheuse, Catherine Haeck, qui est aussi économiste. On a une tendance assez importante au Québec, quand on a un jeune qui bouge trop, qui est turbulent, de lui donner des médicaments. On est en fait la province au Canada qui a plus d'enfants sous médication. Or, en parlant avec des chercheurs, moi, ce que j'ai compris, beaucoup de ces jeunes, quand on regarde le calendrier des naissances, sont des enfants du mois de septembre. Donc, c'est les plus jeunes de leur cohorte. Alors, ça se peut qu'ils n'ont peut-être pas la même maturité que le jeune qui est né en janvier, bien avant lui, qui a 8 mois derrière de plus de vie. Alors, il y a tout ça qu'on devrait... Mais ça, c'est une recherche qui s'en vient. Alors, je ne vais pas non plus bousculer les travaux de Catherine Haeck, qui va revenir avec une recherche vraiment sur ce point précis. Peut-être que ce sera un suivi de ce documentaire, documentaire peut-être prise 2, sur cette tendance à aller très rapidement sur les médicaments.
Et le documentaire de l'écart silencieux va aller au canal Savoir. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain qui est lancé?
Demain, le 4 septembre. Il sera disponible gratuitement en ligne à Savoir Média et à la télévision aussi sur la chaîne Savoir Média à partir du 11 septembre, toujours gratuit. Puis ça, je tiens à dire vraiment sincèrement merci à Savoir Média de faire un documentaire. C'est la première fois avec une élue en fonction, avec aussi un ministre en fonction et d'autres députés en fonction. On a mis toutes nos couleurs politiques de côté pour en faire un enjeu national parce que, sincèrement, comme société, est-ce qu'on veut vraiment aller de l'avant à savoir qu'à chaque année, il y a 20 000 femmes de plus que d'hommes qui obtiennent un diplôme du cégep et de l'université. 20 000! Chaque année.
Ben, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Tout comme vous, j'ai deux petits garçons à la maison. Ils sont un peu plus vieux. Ça me permet de faire un peu plus mes loisirs puis mon travail à moi. Mais de votre côté, c'est un peu ce qui vous stresse, l'avenir de vos petits gars?
Oui. Ouais. C'est inquiétant parce que si je regarde, et Gilles Royer s'est époumoné à en parler pendant... Il me l'a dit, ça fait 30 ans, Marois, que j'en parle. Personne ne m'a écouté. Alors moi, quand Catherine Haeck, là, qui est professeure économiste, là, a dit, moi, j'ai déposé des rapports de recherche. Pourquoi personne n'a bougé? Je disais, parce que c'était... Et j'ai fait de la recherche, puis je me suis rendu compte, et Pauline Marois l'a dit, c'est un sujet qui est tabou. On dit qu'on n'a pas voulu, parce que, hey, là, on va parler des gommes, on n'a pas encore tout fait, là, on n'a pas encore pulvérisé tous les plafonds de verre pour les femmes, on a encore du parcours à faire pour les femmes. On est capable de continuer à faire le travail comme féministe, d'aller chercher d'autres acquis pour les femmes, mais on n'a pas le droit d'abandonner nos hommes. Ça, là, ce sera un aveu d'échec comme société. Et quand j'entends les gens me parler des discours masculinistes puis s'inquiéter, pour moi, les discours masculinistes, ça, c'est un symptôme. Les gens vont chercher naturellement des modèles. Mais c'est à nous de produire des modèles intéressants et positifs. Mais comme société, par exemple, l'Université de Sherbrooke, dans le programme d'orthophonie, sur 56 inscriptions, j'ai un seul homme.
Oui.
Et défoncer toutes les portes, aller les chercher, c'est intéressant de devenir orthophoniste. Puis si vous me permettez, à l'école primaire, est-ce normal que souvent, l'exemple masculin, c'est soit le concierge ou le professeur d'éducation physique?
Il devrait y en avoir plus que ça, effectivement. Puis des modèles masculins, bien, vous avez parlé de Laurent Duvernay-Tardy, là, qui nous fait mal paraître auprès de nos blondes. Là. Mais lui, c'en est tout un, quelqu'un qui excelle dans un sport, mais qui est un brillant individu qui s'est lancé en médecine. Puis aujourd'hui, ça va très bien. L'histoire qui fait les bols, moi, je n'y crois pas encore. Je pense que c'était juste pour qu'il paraisse bien.
Mais... Non, moi, j'y crois. Je vais vous dire une chose. Il a fait une conférence en ligne. Ouais. Il y a eu 300 000 jeunes qui l'ont écouté en direct.
Oui, ça, c'était 300 000. Je pense que c'était les mères qui se connectaient et qui faisaient semblant que c'était les jeunes qui regardaient.
Non, c'est okay. Les jeunes élèves, c'est vraiment tout un modèle.
Ben oui.
Puis, je nous souhaite d'autres modèles comme lui.
Effectivement.
Mais sincèrement, on en a. Et regardez les jeunes, puis ça n'a pas besoin d'être des superstars comme Laurent Duvernay-Tardif, mais des stars locales comme l'Océanique qu'on met d'ailleurs dans le documentaire, ces jeunes hockeyeurs qui ont 17-18 ans, qui, tout en faisant leur sport, vont au cégep, montrent qu'ils sont capables d'être des étudiants athlètes à haut niveau et prendre le temps de lire. Pour moi, des vedettes locales, là, c'est encore plus inspirant pour un jeune. Et J'aimerais aussi dire merci sincèrement à ces jeunes garçons, ces jeunes adultes qui font ça pour des élèves du primaire sur leur temps à eux bénévolement.
Oui, c'est des initiatives citoyennes qui peuvent faire la différence. Marois Risky, ça a été un plaisir de jaser avec vous ce soir. J'espère vous revoir en studio lorsque l'Assemblée nationale va recommencer. J'ai l'impression que ça va brasser. Vous avez du pain sur la planche. Puis je vous salue, vous êtes une personne incroyable.
Mais moi, je veux vraiment venir en studio. Alors, je vous annonce que c'est seulement à très bientôt.
Parfait. Passez une excellente soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis on se reparle demain, les amis. Salut tout le monde. Bye-bye.
Merci tellement, mais vraiment merci, Annick. Merci pour cette belle heure.
Ça fait plaisir. Bye-bye.
Au revoir.
Marceau, le soir.
Air Transat vous offre jusqu'à 7 vols directs par semaine vers Cancun au départ de Québec. Visitez décollerdequebec.ca.
Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps.
Cette année, t'en as plus pour ton argent.